Oui, Seigneur, c'est un moment merveilleux maintenant, parce que nous allons ouvrir ce livre merveilleux que tu nous as donné, qui contient tout, tout ce que nous devons savoir, tout ce que nous avons absolument besoin de savoir pour te connaître, pour recevoir ta grâce, pour comprendre quelle est ta volonté pour nous, quels sont tes projets pour nous. Alors Seigneur, illumine cette lecture, et si nos cœurs ne sont pas encore bien grands ouverts, si les linteaux de nos portes, de nos cœurs ne sont pas encore bien élevés, nous t'en prions Seigneur, fais entrer en nous ce message que tu as voulu pour nous ce matin. Amen. Amen. Alors bien sûr, jour des rameaux, eh bien on va lire le récit des rameaux. Il apparaît dans plusieurs évangiles, mais c'est dans celui de Matthieu, l'évangile de Matthieu. Donc c'est au chapitre 21, pour ceux qui veulent suivre dans leur Bible. Chapitre 21, les versets 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse la parole du prophète. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules précédaient et suivaient Jésus en criant « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Et l'on disait « Qui est celui-ci » Les foules répondaient « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Lorsqu'on lit qu'on entend ce récit, les cerveaux humains ont la capacité d'avoir des images par rapport à ce qu'on entend. Hein. On entend le récit, on voit dans notre imagination, on voit la scène, on voit Jésus monté sur un petit âne qui fait son entrée, et on voit la foule de part et d'autre. Alors les enfants qui courent devant, vous voyez, et puis les gens qui crient de joie, et c'est pas seulement de la joie, ils expriment aussi beaucoup d'admiration, beaucoup d'intérêt pour Jésus, parce qu'ils font quelque chose qui est quand même réservé à un personnage de marque. Hein. Ils étendent leurs vêtements sur le chemin, un peu comme on déroulerait un tapis rouge, mais c'est quand même leurs vêtements. Je ne sais pas si moi j'étendrais volontiers mon vêtement. J'ai acheté fort cher pour qu'un âne marche dessus, quoi. Hein. Donc, vous voyez, alors on imagine, oui, une atmosphère de fête. Sauf que, quand on connaît, avant et après dans l'évangile, quand on connaît toute l'histoire, les tenants et les aboutissants, on peut trouver que la fête a quand même un petit goût amer. Et ceci pour plusieurs raisons. La première, l'importante, c'est que dans quelques jours après, eh bien, ça ne sera pas du tout une atmosphère de fête. Quelques jours après, ça se passe à Golgotha, n'est-ce pas? Ou même avant, le jeudi saint, donc, où là, la foule, elle ne crie plus « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », elle crie « À mort, crucifie-le ». Alors, on a du mal à s'enthousiasmer pour ce récit quand on sait ce qui va suivre. Mais il y a d'autres raisons également qui font que on trouve que la fête est un peu gâchée. C'est que, dans le fond, oui, tous ces gens acclament Jésus, comme un roi, il est roi. Peut-être même comme Messie, il est le Messie. Oui, mais quel roi, quel Messie dans leur idée? Et on le sait, parce que là aussi, avec le contexte de l'Évangile, on voit que les gens n'attendaient pas un Messie tel que Jésus s'est présenté. Et ils n'attendaient pas un roi tel que Jésus s'est présenté non plus. Pour eux, si c'est un roi qu'ils acclament, ils imaginent le gars puissant qui va prendre le pouvoir, chasser Hérode qui était détesté, enfin, peu importe, qui va peut-être lever une armée pour chasser les Romains, l'occupant romain, vous voyez, politique. Ils mettent un rôle politique. Jésus n'a rien à faire des choses de ce monde, et il l'a dit. Enfin, c'est pas qu'il a... Non, je m'exprime mal. Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il veut régner sur les cœurs. Mais ça, les gens n'ont pas compris. Alors déjà, comme roi, c'est un peu bon. Et comme Messie, eh bien, la même chose. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu un prophète, ils ont vu un grand homme, un homme de Dieu, qui guérissait à tour de bras. Alors ça fait mouche. Hein. Les lépreux qui sont purifiés, les aveugles qui voient, les paralytiques qui se mettent à gambader comme des cabris, les... Oh, formidable. Et puis même mieux, enfin mieux, aussi bien. Une foule affamée, 5000 hommes, avec quoi, deux poissons, 5 pains, quelque chose comme ça, il nourrit toute la foule. Voilà le Messie qu'on apprécie. Hein. Donc ils apprécient, oui, un faiseur de miracles. Et ils acclament certainement, pour la plupart, ils acclament Jésus comme un faiseur de miracles. Jésus n'est pas un faiseur de miracles. Alors, vous voyez, avec toutes ces raisons, on se dit, oui, la fête est un peu gâchée, et on se dit aussi qu'il est évident, que Jésus n'est pas dupe. Jésus ne se fait aucune illusion. Jésus connaît, c'est dit dans la Bible, il connaissait les cœurs, il connaissait les pensées, et il sait très bien ce qui se passe dans pourquoi il est acclamé, pour de mauvaises raisons. Je vais même dire des raisons qui sont idolâtres. Là, à ce moment-là, dans son entrée à Jérusalem, Jésus est idolâtré. Et c'est ce que ça veut dire quand l'idolâtrie concerne Jésus, ça veut dire qu'on adore, on acclame Jésus pour ce qu'il n'est pas, mais pour ce qu'on a envie qu'il soit. Vous voyez la différence? Si j'acclame Jésus parce que c'est celui qui va me faire réussir dans mon métier, ou un étudiant, c'est celui qui va me faire réussir mes examens, c'est celui qui va me guérir à coup sûr de tel problème, de maladie, pourquoi pas, il peut faire tout ça. Mais il y a quand même autre chose avec Jésus. Autre chose. Donc, la foule, est, on l'a vu tout à l'heure, comme elle va crier bientôt, dans quelques jours, elle va crier « À mort, crucifie-le », cette foule est versatile, et elle est idolâtre. Bon. Et Jésus le sait, c'est ce que je vous disais à l'instant, Jésus sait que cela. Alors, à partir de là, on peut se poser une question légitime, pourquoi Jésus se prête-t-il de bonne grâce à cette manifestation? Pourquoi joue-t-il le jeu? Pourquoi ne refuse-t-il pas cette acclamation qui est versatile, idolâtre, etc. Ben, je me suis posé la question, imaginez-vous. Bien sûr qu'il sait ce qu'il attend dans 3-4 jours. Il a annoncé à ses disciples, je dois monter à Jérusalem pour être arrêté, jugé, crucifié, mourir, etc. Il le sait. Alors pourquoi? Pourquoi se prête-t-il à ce jeu peut-être un petit peu malsain? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut peut-être s'attarder sur ce cri que la foule pousse, ce mot, cette formule, Hosanna. Hosanna! Alors, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Qu'est-ce que ça veut dire, Hosanna? Dans notre esprit, quand on entend Hosanna, puis on va le chanter tout à l'heure, hein, Hosanna, Hosanna, ça, c'est une sorte d'alléluia, une variante, vous voyez, d'alléluia, Hosanna. Attention, Hosanna, ça a une signification très précise. C'est un mot hébreu, d'hébreu ancien. Et il faut savoir que la foule crie Hosanna, mais ce n'est pas du tout naturel, puisque à l'époque de Jésus, tout le Proche-Orient parlait l'araméen. ils ne connaissaient pas l'hébreu. Il faut le savoir, ça. Maintenant, les juifs en Israël parlent l'hébreu, mais autrefois, donc, c'était l'araméen. Jésus s'est exprimé en araméen. L'hébreu était une sorte de langue morte, un peu comme le latin chez nous. Mais, donc, une langue qui était maîtrisée par les religieux, les élites, les érudits. Voilà. Et là, ils disent bien Hosanna. Alors, c'est un mot hébreu donc, qui signifie sauve-nous. Sauve donc. Ou on peut traduire aussi de grâce, sauve-nous. Hosanna. De grâce, sauve-nous. Donc, ce n'est pas tellement une acclamation, c'est plutôt une imploration, un appel à l'aide. Je me suis dit que, dans le fond, ce mot Hosanna, donc sauve-nous de grâce, il serait parfaitement traduit par SOS. Alors SOS, là, ce n'est pas de l'hébreu, c'est de l'anglais. Ce sont les trois premières lettres de trois mots. Les premières lettres de trois mots, save our souls. Oui, je sais l'anglais, je ne sais pas l'hébreu, mais l'anglais. Save our souls, qui veut dire très exactement sauver nos âmes. Pas nos vies, hein, sauver nos âmes. Quand vous dites SOS, c'est vous dites sauver nos âmes. Et on lance un SOS, c'est un appel au secours. Hein, donc. Eh bien, c'est exactement ce que cette foule dit à Jésus. Hosanna! Sauve nos âmes. Bon, et bien à partir de là, arrêtez-moi si je me trompe. Arrêtez-moi si je me trompe, mais sauver les âmes des gens, c'est bien ce pourquoi Jésus est venu sur Terre, n'est-ce pas? Il est exactement dans son rôle avec ce Hosanna. Donc voilà déjà une première chose. C'est intéressant. Sauve-nous de grâce. Oui, je suis là pour ça, pour y répondre à Jésus. Bon. Donc, on pourrait dire, d'une façon un peu indirecte, que sans trop le savoir, sans en avoir vraiment conscience, cette foule à Jérusalem proclame, par cette acclamation de Jésus, elle proclame une vérité de l'Évangile. Parce que là, je mordicus. Sauver les hommes, c'est vraiment l'essentiel de l'Évangile pour Jésus. C'est sa mission. Intéressant. Mais je dis bien de façon inconsciente. Ils disent, ils crient Hosanna sans trop savoir qu'ils disent une vérité essentielle. Bon, et je me suis dit également que Jésus lui aussi, par son comportement, il annonce lui aussi une vérité essentielle de l'Évangile. Alors laquelle? Bien, je vais vous la dire. Puisque Jésus, le comportement auquel je fais allusion, c'est le fait de se laisser acclamer en entrant à Jérusalem, de bonne grâce, complaisamment. Eh bien, ça constitue une vérité de l'Évangile parce que on voit que Jésus, dès le début de son ministère, hein, tout de suite après la tentation au désert, dès qu'il commence son ministère, il va systématiquement contacter les gens au cœur de leur péché. Jésus n'hésite jamais à entrer en contact avec des pécheurs. Et ça lui a été reproché. Les pharisiens, vous savez, les bien-pensants, mais pas seulement, les scribes, les pharisiens, les docteurs de l'homme, quel est ce personnage qui se commet avec des PAG, des prostituées, ça lui a été reproché. Mais regardez bien les évangiles. Jésus n'a pas peur d'entrer dans le monde des pécheurs, de s'immerger au milieu des pécheurs. Regardez par exemple l'histoire de Zachée. C'est même lui qui l'interpelle. Zachée, il ne demandait rien à Jésus. Hein. Il voulait juste le voir. Il était monté sur un arbre parce qu'il était tout petit. Alors la foule l'empêchait de voir, il monte. Et puis là, Jésus lui dit, Zachée, descends 2 minutes de ton sycomore. Je dois rentrer dans ta maison. Alors ça, dans la loi juive, entrer dans la maison de quelqu'un, c'était s'associer à son style de vie. Si c'était un pécheur, c'était partager son péché en quelque sorte. N'est-ce pas? Bon, regardez également la femme dite de mauvaise vie, enfin oui, la femme de mauvaise vie, prostituée certainement, qui vient verser du parfum sur ses pieds. Donc là, c'est même mieux que, j'allais dire, Jésus n'a pas peur de toucher les pécheurs. Mais là, il se laisse toucher par une pécheresse. Sans hésiter, sans aucune réticence. Et encore une fois, je le répète, ça lui a été beaucoup reproché. Donc, si Jésus se laisse acclamer d'une façon qu'on sent impure, je vous l'ai dit, foule versatile, idolâtre, donc vous voyez, l'acclamation de cette foule, elle relève beaucoup plus du péché que de la foi. Elle est plus dans le registre du péché, oui, que celui de la foi. Si Jésus se laisse acclamer, c'est une fois de plus, parce qu'il n'a pas peur de s'immerger dans le péché des hommes. Pourquoi il s'immerge parmi les pécheurs? C'est pour pouvoir les atteindre. C'est pour pouvoir les atteindre. Comment aurait-il pu changer le cœur de Zachée s'il avait ignoré Zachée sur son arbre? Je ne l'ai pas vu, c'est un pécheur qui reste dans son péché. Alors à partir de là, eh bien, voilà le message de ce matin. Le Seigneur, depuis 2000 ans, le Seigneur Jésus n'arrête pas de chercher à entrer. Où ? À entrer partout où il y a des hommes, des femmes, des humains. Partout. Comme on a dit tout à l'heure, 8 milliards. Alors il rentre dans les sociétés, dans les villes, il veut rentrer dans les communautés, notamment les communautés qui se rassemblent pour lui, les églises. Il veut rentrer dans chacun des individus, dans chaque famille. Il veut entrer en contact, prendre contact, et il veut entrer dans le cœur de chacun d'entre nous. Et nous avons l'impression que pour pouvoir faire cette rencontre avec Jésus, il faudrait que nous ayons un cœur pur, que nous soyons parfaits, saints, parce que tant qu'il y a beaucoup de péché, non. Fermé, il y a marqué fermé sur le cœur. Pas trop envie que le Seigneur vienne voir ce qui se passe dans nos cœurs. Mais il le voit, bien sûr. Et voilà le message. C'est que le Seigneur vienne nous rencontrer, le Seigneur Jésus, au cœur de notre péché. Alors, c'est pas pour nous complaire dans notre péché, mais notre péché ne fera jamais fuir Jésus, bien au contraire. Il l'a dit, c'est pas les malades, c'est pas les bien portants qui ont besoin du médecin, c'est les malades. Mais nous sommes malades de notre péché. Vous entendez bien, nous sommes malades de notre péché. Et il y a le docteur, le médecin qui vient guérir cette maladie, c'est Jésus. Vous imaginez un médecin qui vient chez vous, parce que vous l'avez appelé, et puis au moment de rentrer dans la chambre, vous dites, voilà, mais il a la fièvre, je rentre pas. J'aurais peur d'être contaminé. Bah, attendez, comment il va faire pour le soigner? C'est exactement la même chose avec Jésus. Jésus nous rencontre au cœur de notre péché. Et bien sûr, c'est pour agir. C'est pour effacer ce péché. Nous avons vécu ce temps de confession du péché tout à l'heure, et ensuite le temps du pardon, l'annonce du pardon. Alors nous rêvons pour accueillir Jésus d'avoir un cœur pur. C'est le contraire. Accueillons-le tel que nous sommes, et là, il nous rend le cœur pur. Alors, bien entendu, la rencontre avec Jésus déclenche, suppose, comprend la repentance, le renoncement au péché, bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire, soyez bons pécheurs, péchez tant que vous pouvez, comme ça Jésus vient. Non, c'est pas le but, bien sûr. Mais combien de fois nous nous privons de la présence du Christ? Parce que nous n'osons pas entrer dans sa présence, nous n'osons pas accueillir sa présence en nous, parce que nous nous sentons fautifs pécheurs. Oui, nous le sommes. Et c'est là que Jésus vient percuter, c'est là que Jésus vient agir en nous. Alors, voilà ce que m'a inspiré ce vieux récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem avec cette fête. Alors, n'ayons pas peur d'acclamer en nous le Seigneur quand il vient. Alors, c'est pas avec des branches de palmier, c'est pas en étendant nos vêtements sur je ne sais quel chemin, mais emmener le vent, les linteaux de je ne sais quelle porte, Mais c'est un peu tout ça à la fois quand même, c'est-à-dire de façon imagée, accueillons le Seigneur, et si jamais nous réalisons que les hosannas que nous crions au Seigneur, c'est-à-dire sauve-nous, puisent leurs racines dans le registre du péché plus que de la foi, peu importe, le Seigneur nous entend, nous reçoit et il arrive. Alors oui, crions au Seigneur, hosanna, et puis ensuite, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen.